Pays Midi Quercy, Mater. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de relativement exceptionnel sur le Pays Midi Quercy. C'est un lotissement dont tous les résidents, les futurs propriétaires ou déjà propriétaires des lots, se connaissent, ont fait connaissance pendant de bonnes années avant même que les projets naissent. D'habitude, quand on habite un lotissement, c'est un promoteur qui a créé des lots et puis on achète, on construit, on découvre les voisins qu'on a. Là, le projet dont je parle, c'est l'éco-hameau de Verfeil qui a plusieurs années déjà en tant que projet. Au printemps 2010, on en est au premier coup de pioche, en particulier à l'implantation d'arbres fruitiers avec l'association Campagne Vivante, avec qui on fera une émission. Et aujourd'hui, je reçois Stéphane Gutiérrez, qui est dans la SARL, qui porte ce projet. Il habitait à Tours, il est venu pour s'installer à Verfeil, et depuis qu'il est là, il rame un petit peu pour l'implantation de ce projet d'éco-hameau qui a été voulu par la municipalité précédente pour agrandir les capacités d'accueil de la commune de Verfeil et permettre aussi que les gens aient un bout de terrain autour d'eux. Dans la foulée du développement durable, pourquoi pas des maisons écologiques? Certains vont même jusqu'à des maisons bioclimatiques avec des matériaux compatibles avec l'environnement, du développement durable. Alors, on a de la paille, de la terre, du bois, des choses comme ça. Et une particularité, une halle commune implantée au centre, de façon à ce que les enfants ne risquent pas de se faire écraser sur des endroits où des voitures circuleraient. Bon, voilà. Autant de questions que nous avons posées à Stéphane Gutiérrez. Alors, vous n'imaginez pas que quand la municipalité de Verfeil se disait « Ah ben tiens, on voudrait bien que la population grandisse et qu'on ait une capacité pour les accueillir et qu'en plus, développement durable à la mode mondialement exige, on peut aussi faire quelque chose d'intelligent, d'écologique, qui s'insère bien dans le paysage, que ce soit de la terre, du bois, de la paille, des choses comme ça. » Vous n'imaginez pas qu'en fait, il faudrait être plus compétent en matière juridique qu'en matière d'éco-construction. Alors, où vous en êtes, cet éco-hameau? Où vous en êtes, là?
Alors, on avait attaqué les travaux à l'été dernier, et puis, suite à une procédure judiciaire de nos quelques opposants sur Verfeil, qui veulent pas de l'éco-hameau à côté de chez eux, grosso modo, chose que je peux comprendre, on a eu une interruption de travaux, donc du coup, on a redéposé un nouveau permis, puisque l'ancien présentait quelques failles juridiques, on va dire, et donc ce nouveau permis a été déposé le 23 novembre, et nous sommes sur le point de recevoir son acceptation dans les jours, semaines qui arrivent là. Tous les artisans sont au courant, ils attendent le feu vert.
Alors sur le nombre de lots qu'il y avait, donc il y a un certain nombre de postulants qui sont sur les starting blocks. Vous vous connaissez déjà entre vous puisque vous avez créé une structure pour porter ce projet finalement.
Tout à fait. Aujourd'hui on est 8 sur ce projet, donc sur un total de 11 lots. Il y en a 9 qui sont pourvus. Il nous reste encore un lot pour une habitation à usage d'habitation principale. Et donc voilà, on cherche des gens qui ont un esprit d'ouverture et puis une sensibilité à l'écologie.
Alors déjà, la plupart des porteurs de projets, vous savez comment ils vont construire une maison. Il y a du dessin, il y a de la projection en 3D, il y a de la maquette, il y a aussi dans le permis de construire les matériaux. Vous savez à quoi ça va ressembler. C'est-à-dire, vous pourriez presque passer le peu de temps qui vous reste avant que ça démarre vraiment, que vous ayez des ampoules aux mains, à faire une maquette.
Tout à fait. Moi, j'ai déjà fait la maquette de ma maison. Les plans sont faits. On est plusieurs à travailler là sur les plans en ce moment, puisque ça se précise. Oui, là, ça a bien avancé. On a fait beaucoup de travail au niveau de la conception, par rapport aux conceptions bioclimatiques, par rapport aux matériaux, par rapport aux histoires d'isolation, d'inertie. Enfin voilà, il y a vraiment le projet est cohérent aujourd'hui. Il y a un gros travail qui a été fait à la fois par les architectes, par les urbanistes. Beaucoup de travail aussi qu'on a fait personnellement. Il y a certains parmi nous ont vraiment fait un chemin dans cette conception de maison avec beaucoup d'apprentissage, beaucoup de remise en question de certaines choses pour être, je dirais, au plus près de l'esprit et puis d'être cohérent dans ce qu'on fait, quoi.
Oui, il y a personne qui fait un puits canadien en prenant de l'air à côté d'une zone d'épandage de quelqu'un d'autre.
Non, ça on évite, non, effectivement.
Ça a permis ça au moins tout ce temps.
Tout à fait, oui, bien sûr, ça a été un temps qui n'a pas été perdu du tout. Il y a eu un gros travail de réflexion, de conception qui a été fait. Et puis même nous, au niveau du groupe, ça nous a permis de réfléchir à qu'est-ce qu'on allait faire ensemble au sein du groupe, quelles sont les choses qu'on allait mettre en commun, comment on voulait vivre ensemble, voilà, donc ça nous a permis
c'est
de...
C'est presque intéressant, hein, ce temps-là.
C'est très intéressant, oui, humainement c'est très intéressant, et puis au niveau conception aussi, oui, c'est très intéressant, oui, tout à fait.
Oui, parce que c'est quand même assez rare, si on prend les choses traditionnelles, des gens qui vont tous habiter dans un lotissement se connaissent avant que le lotissement sorte de terre.
Oui, tout à fait, mais nous on est dans un cas un petit peu spécial, puisqu'en fait la SARL donc, qui lotit rassemble tous les futurs habitants. Donc on se connaît déjà certains depuis 2 ans maintenant, donc ça commence à faire une belle aventure.
Bon, j'ai entendu dire qu'il y avait même eu un stage de formation pour créer soi-même son assainissement non collectif, ça s'appelle, c'est ça?
Oui, alors on a eu plusieurs choses. On a eu déjà un stage qui s'appelait, qui a été fait par Bob Lagnolo, un architecte que je salue au passage, parce pour toute l'aide qu'il nous a amené, et qui nous a fait un stage de 3 jours sur la conception de maisons bioclimatiques et écologiques, qui s'appelait comment concevoir sa maison, qui était très pertinent et qui a fait progresser beaucoup de personnes. Dans cette réflexion-là. On a également un stage de mise en place du bassin de phytoépuration, donc retraitement des eaux par les plantes. Et puis, on est encore en train de réfléchir à organiser d'autres stages, notamment pour la construction de la halle commune. Et puis voilà, différents. On va également faire ensemble la plantation des arbres. On a 450 plants qui vont être plantés sur site, dont des arbres fruitiers, voilà.
Défendu. Non, ce n'était pas le paradis ni l'enfer, ni rien de déjà vu ou déjà entendu. La la la, la la la, la la la. Il y avait un jardin, une maison. Avec un lit de mousse pour y faire l'amour, et un petit ruisseau roulant sans une vague venait le rafraîchir et poursuivait son cours. La la la, la la la, la la la. Il y avait un jardin grand comme une vallée. On pouvait s'y nourrir à toutes les saisons. Sur la terre brûlante ou sur l'herbe gelée. Et découvrir des fleurs qui n'avaient pas de nom. La la la, la la la, la la la. Il y avait un jardin qu'on appelait la terre. Il était assez grand pour des milliers d'enfants. Il était habité jadis par nos grands-pères. Ils le tenaient eux-mêmes de leurs grands-parents. La la la, la la la, la la la. Où est-il ce jardin où nous aurions pu naître? Où nous aurions pu vivre insouciants et nus? Où est cette maison, toutes portes ouvertes, que je cherche encore et que je ne trouve plus. La la la, la la la, la la la.
Merci, ma terre dans tous ses états, une émission de connaissance de notre territoire.
Avec Stéphane, on parle de l'éco-hameau de Verfeil. Comment ça se passe pour les gens qui ne connaissaient pas la commune, ses habitants, les lieux, etc., qui sont venus sur un projet de maison bioclimatique, d'autoconstruction, et qui voulaient s'installer à cet endroit-là. Comment ça se passe pour eux de ressentir une espèce de « ça va pas de soi » ?
Ces réticences, elles existent. On est dans un pays libre où chacun a le droit d'exprimer ses défiances, ses opinions, etc. Je trouve ça très bien. Nous, on se bat pour notre projet parce qu'on y croit et on croit en sa pertinence. C'est à nous de faire ce qu'il faut pour que cette opposition retombe d'elle-même et qu'elle cesse d'exister pour qu'on puisse monter ce projet.
Parce que elle correspond un petit peu à de l'ignorance aussi. Tant que c'est pas là, on sait pas trop ce que c'est.
Tout à fait, oui. Tout à fait.
Voilà, donc ça va se régler quand les gens se rencontreront, se parleront. Bon, en même temps, vous avez contre vous le fait d'être des étrangers.
Oui, c'est vrai, oui. Ouais. Alors, oui, c'est vrai, ça serait plus logique.
Alors, qu'est-ce que c'est que cette mère de commune qui fait venir des étrangers? Ils peuvent pas faire des enfants, ceux qui sont là, ou quoi? C'est vrai que statistiquement, les enfants, dès qu'ils dépassent le second degré scolaire, ils s'en vont.
Ils s'en vont, oui. C'est vrai que dans la région, enfin la région de Verfeil et autour, il n'y a pas énormément de travail, il faut quand même bien le dire. Nous, c'est vrai qu'on a travaillé aussi sur cette idée-là, c'est-à-dire qu'il y a quand même une bonne partie des gens qui viennent s'installer, qui ont déjà un travail et qui vont venir déplacer leur activité sur Verfeil, parce qu'ils peuvent le faire sur place. Après, il y en a quelques-uns qui sont dans une démarche sur place d'aller chercher du travail, éventuellement de créer une activité. Donc tout ça fait partie de nos réflexions communes aussi.
Et dans le lot d'autoconstructeurs, il n'y a pas des gens qui finalement se disent « ça me plaît tellement que je pourrais devenir constructeur ».
Moi, c'est mon but, je l'ai toujours dit. Moi, je viens du bâtiment à l'origine, ça fait 6 ans maintenant que je m'intéresse à la construction écologique de façon extrêmement poussée. Et mon but, une fois ma maison construite, c'est effectivement de monter une entreprise en éco-construction.
Ah, ça veut dire quoi? Que quand on était branché déjà maison bioclimatique et qu'on a reçu l'architecte dont vous parliez tout à l'heure, on continue à apprendre des choses?
Toujours. Toujours, on continue toujours à apprendre des choses. C'est un domaine extrêmement vaste, la construction. Vous avez la plomberie, l'électricité, le montage de murs, la toiture, la couverture, le chauffage. Enfin, une maison, c'est un tout, ça se pense pas, ça se coupe pas en petits morceaux, en petits tronçons, et puis on assemble tout ça à la va-vite. Non, ça se pense, une maison, ça se réfléchit, quoi.
Et on est en train de basculer, là, justement, sur les techniques. Les techniques de demain n'auront plus rien à voir avec celles d'hier.
Jusqu'à
il y a encore peu de temps, et même encore en ce moment, il y a sûrement des gens qui sont en train d'empiler des parpaings de béton en se disant pour l'isolation on rajoutera de la laine de verre et puis du placo pour cacher le tout. Il y a rien de plus aberrant.
Ah ça c'est évident, oui. Si vous voulez, la technique de monte classique, on va dire, je n'ose pas dire traditionnelle, on l'appelle traditionnelle, mais bon, c'est pas du traditionnel du tout. La technique classique qui consiste à mettre effectivement parpaing, laine de verre, placo, le classique, faut savoir que ça n'est pas un système constructif. C'est-à-dire que c'est des pansements mis sur des pansements mis sur des pansements. Je peux vous faire un petit historique très rapide. À la fin de la guerre de 40, on s'est retrouvé à avoir besoin de reconstruire. Et on s'est dit comment on va faire. Et ce qu'on avait sous la main, c'était des industries du béton. Parce qu'il y a eu le mur de l'Atlantique, il y a eu la ligne Maginot avant, on avait une industrie du béton assez florissante. Donc on a mis au point le parpaing et on a construit au parpaing pour remplacer la pierre, parce que ça allait beaucoup plus vite. Et puis premier choc pétrolier en 70, on s'est dit « Ah, on peut plus chauffer comme on veut, quand on veut, donc il va falloir faire des économies, il faut isoler, parce que ce parpaing n'a aucune qualité thermique. » Ni phonique d'ailleurs, enfin le parpaing n'a aucune qualité.
Il se fabrique partout.
Il se fabrique partout, il se monte vite. Voilà. C'est vrai, s'il a des qualités économiques.
Et il se coupe facilement.
Très très bien. C'est son avantage. Et donc on est allé venir mettre là-dessus de la laine de verre. Et puis on s'est rendu compte que la laine de verre, ça étanchéifiait, ça empêchait la maison de respirer, que la laine de verre supporte très mal l'humidité, qu'elle a tendance à s'agglomérer à elle et donc à perdre son pouvoir isolant au bout de quelques années. Donc on a commencé à mettre des VMC à l'intérieur pour pouvoir éliminer cette vapeur d'eau. Et donc voilà, ce sont des pansements mis collés les uns aux autres pour essayer de pallier à des difficultés qui se sont créées au fur et à mesure, mais ça n'a aucune logique constructive.
Et ça a une petite conséquence un peu catastrophique à mon goût, c'est que du coup le pavillon pris sur catalogue, vous l'avez partout, quelles que soient les traditions architecturales d'une région, et c'est un peu comme les entrées de ville, finalement on sait plus où on est.
Pendant 40 ans, on a formé les maçons, les couvreurs, enfin tous les métiers du bâtiment, on les a formés à ce type de construction. Donc aujourd'hui, on a effectivement un déficit en savoir-faire qui est énorme et qui, par la construction écologique et le mouvement de la construction écologique actuellement, par plein d'organisations, notamment des associations, mais on commence à trouver des professionnels maintenant qui font de la formation, ces savoirs ancestraux remis au goût du jour, parce qu'il faut pas nier la modernité non plus, sont en train de refaire leur apparition et on reforme des gens à des constructions conventionnelles, enfin traditionnelles là pour le coup, pour vraiment, qui sont la construction bois, qui sont la construction paille, terre, il y avait le torchis de nos ancêtres, ou la construction briques de terre crue, etc., qui ont des qualités thermiques, phoniques, au niveau santé et durabilité, qui sont indéniables.
Pays Midi Quercy, ma terre dans tous ses états, une émission de connaissance de notre territoire.
Aujourd'hui avec Stéphane Gutiérrez pour parler de l'éco-hameau de Verfeil. En fait, ce mouvement a commencé à se ralentir, enfin le mouvement de sur la lancée du béton, au moment où réapparu la chaux dans les circuits de distribution, quand les architectes ont dit « mais attendez, le ciment ça respire pas, il n'y a rien de pire quoi, une plaque de ciment contre un mur ». Et a démontré que ce qui était millénaire, ce qui a duré, ce qu'on a encore qui date d'avant Jésus-Christ, c'est des constructions enduites de chaux. Sans parler de celles qui sont en terre, puisque 70% des constructions sur la planète sont en terre, et y compris de plusieurs étages. Alors du coup, se remettre à construire avec des balles de paille, trempé dans de la terre, pressé entre des structures au bois, moi j'en reviens pas, on peut percer à la chignole et mettre une cheville, quoi, quasiment.
On peut, bien sûr, oui.
Donc ça veut dire que l'a priori sur la terre, c'est moins solide que du parpaing, ça c'est absurde. Une épaisseur de paille qui fait déjà un bon isolant, enduite de terre de chaque côté, c'est phonique, thermique, formidable, et en plus ça peut durer. Pour peu que ça soit, comme ils disent les architectes, bien chaussé et bien couvert. C'est-à-dire pas de remontée d'eau, donc sur des assises de notre matériau, et une bonne couverture qui dépasse. Et finalement, on s'aperçoit qu'on peut rester dans une structure architecturale traditionnelle, entre guillemets. C'est-à-dire, les anciennes fermes du Bas-Quercy, c'est ça. Alors bon, difficile de remettre en route des carrières avec des tailleurs de pierre, quand même.
Oui, ça c'est difficile, parce que la main d'œuvre coûte très très cher, et que donc la pierre, je sais pas les tarifs aujourd'hui, mais un mètre cube de pierre, ça va tailler, ça coûte extrêmement cher, oui, c'est certain, oui. Donc effectivement, à moins d'avoir énormément de moyens, se refaire construire aujourd'hui une maison en pierre de taille, ou même en pierre comme on trouve ici, tailler même sommairement, ça paraît très très difficile, à moins de l'autoconstruire, mais là il faut beaucoup de courage parce que c'est quand même énormément de travail.
Et la possibilité d'une carrière,
tout à fait.
Bon, ceci dit, les encadrements, on peut encore trouver ça.
Oui.
Bon, et il y en aura dans
les
8
projets. C'est bien possible, oui.
Oui, au moins une façade nord une façade linteau, encadrement de fenêtres.
Oui, linteau, encadrement, oui, ça c'est possible.
Il y aura ça. Sinon, quels aspects ça aura, toutes ces maisons?
Ça aura un aspect...
Il n'y en a pas de pareil?
Ah non, il n'y en a pas de pareil, non. Ça aura un aspect assez classique, en fait, puisqu'on est sur définition d'enduit à la chaux, ou alors sur des maisons bois pures, donc ça soit un aspect bois, soit un aspect enduit, donc en fait on ne verra plus du tout ni enfin le système constructif, ni la paille, ni l'ossature, ni rien.
Ni la transpiration.
Ni la transpiration par ailleurs. Donc en fait ça sera pas du tout choquant dans le paysage, ça ressemblera à une maison tout à fait classique. Hein.
Alors en résumé, les caractéristiques d'une maison bioclimatique, bon mis à part l'autoconstruction, s'il fallait résumer à quelqu'un là qui vient d'arriver et d'entendre l'antenne, qu'est-ce que c'est une maison bioclimatique ? Il y a pas un label, mais il y a des principes de base.
Voilà, il y a des principes de base.
Elle est pas orientée au nord.
Non. Alors une bonne maison, déjà, ça dépend beaucoup du terrain. Dans l'idéal, il faudrait avoir un terrain sud qui permet d'avoir un ensoleillement maximal. Donc on ouvre au maximum au sud, on met beaucoup d'ouvrants, beaucoup de verre pour pouvoir récupérer la chaleur du soleil, surtout l'hiver. Quand il est bas, à l'intérieur de la maison, on fait une bonne isolation thermique sur le pourtour de la maison et on met à l'intérieur des matériaux dits à inertie, c'est-à-dire qu'ils sont capables de collecter la chaleur et de la retransmettre sur la durée. Donc ça permet d'avoir de la chaleur l'hiver qui perdure dans la maison, qui va pas s'en aller par les murs. Et puis également l'été, de conserver de la fraîcheur, puisque ça marche dans les deux sens. Donc ça, voilà, c'est un grand principe de base.
Donc de la fraîcheur, ça veut dire que quand le soleil est plus haut, il y a des petits avant-toits.
Voilà, on met en place des petits avant-toits au sud pour éviter que le soleil ne rentre à l'intérieur et ne chauffe la maison. Donc comme le soleil est plus bas l'hiver, par contre là il rentre et on gagne cette énergie passive. Hein. Et puis on ferme au nord au maximum. Et puis on essaie de se protéger des vents dominants, des pluies dominantes. Voilà, donc ça c'est les grands principes de base. Après ça peut aller beaucoup plus loin.
Oui, après, il y a appui canadien pour les ventilations.
Voilà, on peut utiliser les plus canadiens. Après, les moyens à mettre en œuvre, il y en a énormément. Hein. On peut aller jusqu'à la VMC double flux. Maintenant, il y en a très performantes. Système de chauffage par le sol ou dans les murs, puisque actuellement, ce système-là existe aussi. Voilà. Après, les moyens techniques aujourd'hui sont énormes. Hein.
C'était Pays Midi Quercy Mater. Aujourd'hui, nous recevions Stéphane Gutiérrez et nous parlions de l'éco-hameau de Verfeil, composé d'un lotissement de 11 lots avec des maisons écologiques, parfois autoconstruites. Je vous remercie Stéphane.
Je vous en prie, au revoir.
Pays Midi Quercy Mater dans tous ses états, une émission de connaissance de notre territoire. Retrouvez Pays Midi Quercy Mater dans tous ses états le mardi à 12h30 et le samedi à 18h.